l'Occident, et donc évidemment ça n'embête pas grand monde de dire que c'est Al-Qaïda.
Je ne peux pas parler sur la pertinence des éléments nouveaux.
BFM,
je dis simplement,
11 novembre 2009.
J'évoque ce qui a été fait et qu'aujourd'hui, je pense qu'il est incontestable.
Jean-Louis Bruguière.
Que l'attentat lui-même est l'œuvre d'une organisation liée à Al-Qaïda, une organisation pakistanaise.
C'est une affaire qui apparaît complexe, incompréhensible souvent de l'extérieur. En fait, c'est qu'il y a deux affaires. Et deux affaires qui sont peut-être liées.
Ce qui peut rendre l'affaire complexe, alors que si on prend les éléments les uns après les autres, elle ne l'est pas tant que ça. Mais ce qui rend l'affaire complexe, c'est un problème de temporalité. Puisque finalement, on va dire qu'il y a trois dates repères dans cette histoire, mais qu'on aborde dans le désordre chronologique. Pourquoi ? Parce que l'élément, on va dire, fondateur, le plus spectaculaire, ce qui fait de cette affaire une affaire, ou une affaire d'État, c'est l'attentat de Karachi. Il est commis en 2002. Or, pour comprendre cette affaire, il faut s'intéresser à ce qui s'est passé en 1994 et en 2008. Et donc on est en permanence dans ces trois époques, dans ces trois périodes qui s'entremêlent et qui rendent parfois la lecture de l'affaire difficile.
Donc Fabrice Lhomme, journaliste à Mediapart, co-auteur du contrat, repartons de 1994, de l'ambiance, du climat politique en France au milieu de ces années 90. En 1994, Édouard Balladur est au plus haut des sondages et il envisage une candidature à l'élection présidentielle. Avec pour rival Jacques Chirac, qui lui dispose pour ainsi dire de fonds à volonté pour mener sa campagne présidentielle, à la fois parce qu'il détient le RPR et parce qu'il détient la mairie de Paris. Et lui, Édouard Balladur, n'a pas ces renforts financiers-là pour assurer une campagne présidentielle. Donc il lui faut trouver d'autres fonds à l'époque.
Voilà, c'est effectivement l'enjeu principal de cette période, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les baladuriens ont décidé que leur poulain pouvait concurrencer Jacques Chirac et pouvait faire un candidat crédible, et bien il a fallu financer ses activités, financer la campagne. Une campagne électorale, ça coûte très cher. Et donc il y a eu cette frénésie de contrats d'armement qui ont été signés dans l'urgence par le gouvernement Balladur.
C'est-à-dire que là, pendant l'automne, au début de l'automne 1994, on voit le gouvernement Balladur, c'est-à-dire à l'époque le ministre de la Défense François Léotard, Édouard Balladur lui-même, son directeur de cabinet Nicolas Bazire, éventuellement ministre du budget Nicolas Sarkozy, s'activer pour décrocher deux contrats, notamment le contrat Sawari 2 avec les Saoudiens et le contrat Agusta avec le Pakistan. Et ce qui apparaît dans les témoignages que vous livrez, c'est que ces contrats ne sont pas du tout destinés à faire du bénéfice à l'industrie française, puisqu'au contraire, ils sont quasiment construits comme étant déficitaires. Vous rencontrez Jean-Louis Porchier, qui est contrôleur général des armées, qui a écrit un rapport spécialisé sur du coût de fabrication de l'armement, et qui a travaillé notamment sur ce contrat à Agusta. Et là, il vous livre des informations qui sont assez étonnantes.
Ah bah oui, Monsieur Porchier a été très clair. Pour lui, ce contrat était, on va dire, un non-sens financier. Et ce qui est intéressant, là encore, c'est de voir que le contrôleur général Porchier va alerter sa hiérarchie sur le fait que ce contrat est un non-sens financier.
Alors, c'est le contrôleur général des armées, Monsieur Jean-Louis Porchier, qui vous signale que ce contrat a coûté beaucoup d'argent à la France plutôt que de lui en rapporter. Tout le monde s'en était moqué. Sur un contrat de 5,4 milliards de francs, je chiffrais la perte à environ 1,3 milliard. Il y avait une volonté de prendre ce contrat quoi qu'il en coûte. Je me souviens qu'il y avait eu beaucoup d'interventions politiques avant la signature. Il y avait eu des pressions de Léotard, des demandes très fermes, insistantes même pour que ce contrat se fasse. Votre interlocuteur Jean-Louis Porchier s'est intéressé de près au rôle joué par le ministère du budget de l'époque, c'est-à-dire Nicolas Sarkozy, ainsi qu'au service du Premier ministre. Bercy jouait un rôle central car il accordait la garantie de l'État. Alors qu'on pourrait dire que c'est un contrat qui concerne la DSN, la direction des constructions navales, mais là, jusqu'au sommet de l'État, jusqu'à Édouard Balladur, apparemment jusqu'à Nicolas Sarkozy, jusqu'à François Léotard, on insiste très fort pour que ce contrat soit signé avec les Pakistanais, pour que ce contrat se fasse.
Alors oui, ce qui ressort, c'est qu'il y a eu une pression terrible mise par les autorités politiques de l'époque pour signer ce contrat, quoi qu'il puisse en coûter.
Pour François Léotard, les autorités pakistanaises avaient mis les petits plats dans les grands.
TF1.
Après une longue négociation,
23 septembre 1994.
Après une âpre lutte avec des concurrents solides comme la Suède ou la Grande-Bretagne, la France remporte le marché et vend au Pakistan trois sous-marins d'attaque de type Agusta 90B. Montant de la vente, 5,3 milliards de francs. Qui plus est, deux sous-marins seront assemblés au Pakistan. Cela s'appelle un transfert de technologie. Bref, en rencontrant le Premier ministre Benazir Bhutto, François Léotard inaugurait une lune de miel entre